Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
Peut-être plusieurs le savent ici, j'ai la joie et vraiment le privilège de construire avec Janet depuis une douzaine d'années maintenant. C'est mon épouse, on construit une vie de famille qui est vraiment belle et chargée. On a 4 enfants, dont 2 jumeaux qui ont 3 ans. Et alors on découvre et on redécouvre à chaque enfant des choses nouvelles. Et là, il y a quelque chose qui m'a marqué ces derniers temps. Mes enfants ont une nouvelle, mes 2 jumeaux ont une nouvelle expression, c'est « je ne suis plus ton copain ». Alors, je suppose que ça vient du jardin d'enfants, je ne sais pas vraiment d'où ils ont entendu ça, mais ils jouent ensemble, d'accord, ils sont ensemble, ils jouent, ils rigolent et tout ça, et puis, alors eux, leur truc, c'est jouer à sauter depuis le canapé, littéralement défaire le canapé et sauter depuis le canapé, défaire dans les coussins qui sont au sol. Ils ont plus de peine à refaire le canapé, mais ça, c'est un autre sujet. Et alors qu'ils font ce jeu, d'un coup, il y en a un qui a une idée. Et puis alors, ça peut être le premier qui dit au deuxième, hey, « viens voir. » Et le deuxième l'ignore, parce qu'à cet âge-là, on n'a pas de filtre. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Donc le deuxième l'ignore, puis alors il monte dans la voie, « Mais... » Et puis au bout d'un moment, il dit, « Je ne suis plus ton copain !» Et vraiment, nous, en tant que parents, on regarde et on se dit, « Mais quelle idée mais... ?» Ça n'a jamais été ton copain, c'est ton frère, en fait. Tu n'as pas le choix sur cette histoire de lien. Là, il sera toujours là. Qu'importe ce que tu penses, ce que tu dis. Et l'autre se retourne, moi non plus, je ne suis plus ton copain. Je dis, bon, ben, ça y est, vous n'êtes plus copain. Et je pensais à ça en préparant ce message. Parce que, à quelque part, on est des fois comme ça à vouloir savoir c'est quoi mon équipe, c'est qui les gens qui sont avec moi, c'est qui les gens qui sont contre moi. Et puis on est dans une société extrêmement clivante, c'est les uns à droite, les autres à gauche, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et puis on a un peu une vision des fois du monde de cette façon-là. Et je crois qu'il y a une question qui est plus importante peut-être ou différemment importante, qui est savoir à quel point nos cœurs sont pour Dieu. Pas tellement... Où est-ce que mon frère, est-ce qu'il est encore mon frère, tu n'es plus mon copain ou quoi, mais à quel point nos cœurs sont positionnés pour Dieu. Et avec ça à l'esprit, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles, on va aller dans le livre de Josué. On est dans une série qui s'intitule « Cœur entier » et qui s'articule autour du livre de Josué. Donc pour ceux qui suivent régulièrement, ça ne doit pas être une surprise. Et on va lire en fait plusieurs chapitres, enfin plusieurs bouts de plusieurs chapitres. On ne va pas lire tous les chapitres ensemble. On va aller d'abord dans Josué au chapitre 5, le verset 13. On a lu déjà ça la semaine passée pour ceux qui étaient au culte la semaine passée. Et on va aller jusqu'à Josué 6 au verset 5. Josué 5 à partir du verset 13 jusqu'à Josué 6 jusqu'au verset 5. Et ensuite, on tournera une page et on ira à Josué 7 et on lira les 5 premiers versets. Je vous donnerai tout du contexte. Si vous ne connaissez pas du tout Josué, ça va être beaucoup plus clair par après. Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué monta vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Chapitre 6. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. » Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. On saute maintenant et on va à Josué au chapitre 7, les 5 premiers versets. Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Achan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérak, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Aï, qui est situé près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit, « Montez explorer ce pays. » Ces hommes montèrent explorer Aï. De retour vers Josué, ils lui dirent, « Il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. 2000 ou 3000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont petits en nombre. » Ainsi, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Aï. Les habitants d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage. Il se liquéfia. Bienvenue à l'église. On est dans une période ici intense en tant qu'église. Ça a été rappelé par Alessandra, tout le mois de mars qu'on met à part pour jeûner, se préparer à Pâques. C'est environ 3/4 de la période du carême, relativement connue. En parallèle, on vit cette série sur le livre de Josué. Et je ne sais pas si en dehors des dimanches, plusieurs ont pris le temps de lire Josué. On a d'autres plans de lecture, je comprends bien que tout le monde ne peut pas. Mais j'espère sincèrement que plusieurs ici se sont plongés dans ce livre. J'aimerais vraiment vous y encourager. Avec ces séries de messages qu'on appelle bibliques ici, on a le désir de lire ensemble la Bible, de nous plonger dans ce livre et de le laisser nous façonner. On croit qu'il est inspiré par Dieu et on veut laisser l'Esprit de Dieu nous parler lui-même au travers de notre lecture de la Bible. On veut battre les statistiques qui nous disent que de moins en moins de monde lit la Bible. Et du coup, en tant qu'Église, on veut se plonger dans des livres. Et puis on lit des passages comme ça qui sont surprenants. On lit des bouts de la Bible comme ça et puis on se dit, qu'est-ce que ça veut bien dire? Est-ce que ça nous parle à nous? Est-ce que c'est juste des faits historiques? On veut se poser des questions, mais on veut aussi, et on veut croire, que ça nous fait grandir dans notre relation avec Dieu. Et je l'ai dit déjà, mais toute cette série autour de Josué, ce qu'on a envie de mettre en avant, c'est de développer des cœurs entiers. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Josué, rapidement, je vais vous faire en 1 minute 30 un résumé des 5 premiers livres de la Bible. Alors là, il faut se dire, ça c'est vraiment... Merci Yves, c'est cool. Je saute directement au 6e livre. Donc si vous n'êtes pas familier avec la Bible, en fait dans la Bible, on voit Dieu qui fait alliance avec une famille, cette famille qui va devenir un peuple, et ce peuple va se retrouver après différentes aventures en Égypte, et en fait dans situation d'esclavage en Égypte pendant 400 ans. Et là, Moïse va avoir le cœur de libérer ce peuple, il va être invité par Dieu lui-même à libérer ce peuple, à faire sortir ce peuple pour aller en terre promise. Mais alors qu'ils sont au mont Sinaï, qu'ils sont sortis de l'Égypte, et que Dieu leur propose une nouvelle alliance, qui veut refaire alliance avec eux, on voit que le peuple ne parvient pas à s'engager pleinement pour Dieu. Alors qu'ils viennent de vivre une sortie miraculeuse, on les voit retomber dans des travers, dans une forme d'idolâtrie. Et puis, alors qu'ils sont là, et puis qu'il y a des batailles, que Moïse est énervé avec le peuple, que Dieu est énervé avec le peuple, et ils continuent à aller en direction de la terre promise. Puis à un moment donné, il y a des espions qui sont envoyés justement dans cette terre promise. Mais à leur retour, ils sont 12, et à leur retour, 10 de ces 12-là font un mauvais rapport. Oui, c'est bien l'endroit où Dieu veut qu'on aille, mais on n'y arrivera pas. Et du coup, le peuple en veut à Dieu une fois de plus. Alors Dieu dit, cette fois-ci, ça suffit. Cette fois-ci, c'est bon, j'en ai marre. Une génération doit passer. Et les 10 espions qui ont donné le mauvais rapport et le peuple ne pourra pas entrer en terre promise. C'est la prochaine génération, avec les 2 espions, dont Josué, qui pourront entrer en terre promise. Et littéralement, vous allez lire, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est ennuyeux, parce que pour eux, c'était ennuyeux. Vous allez lire littéralement comment un peuple, pendant des dizaines d'années, va tourner en rond dans le désert. Alors, il ne va pas rien se passer, mais c'est littéralement ça. Ils doivent attendre que quelque chose se passe. Finalement, Josué, encore une fois, qui était un des espions, qui avait un bon rapport, va devenir le successeur de Moïse, et le peuple entre en terre promise. Et ça, c'est le livre de Josué, le 6e livre de la Bible. Et là, on a lu 2 chapitres de ce livre-là. Les 2 dernières semaines, ce qu'on a vu, c'est dans les chapitres 1 à 5 qu'on s'est vraiment concentré. Et on a vu tout d'abord la dimension de transition. On a vu comment ce n'était pas évident pour une génération entière qui a grandi dans le désert de transitionner et puis d'aller dans des choses nouvelles. On a réalisé que nous aussi, pour chacun d'entre nous, ce n'est pas simple de transitionner. Et puis la semaine passée, ce qu'on a vu, c'est à quel point des fois on entre dans la terre promise, mais alors qu'on espère, on se réjouit, en fait, ce nouveau peut sembler être un ralentissement au départ. Et Raphaël Guichou, qui prêchait en tant qu'orateur externe, nous disait, c'est important de comprendre que avant de conquérir la terre promise, Dieu voulait conquérir le cœur du peuple encore. Et que nos cœurs sont fondamentaux, très très importants, c'est une question de cœur. Il a souligné l'importance d'une rencontre, justement de cette rencontre qu'on vient de lire entre Josué et le chef de l'armée de l'Éternel. Et alors que Josué lui demande, tu es avec nous ou tu es contre nous? Tu es avec nous, tu es avec nos ennemis? La réponse du chef est surprenante, non. Non. Mauvaise question. Et du coup, Josué comprend quelque chose, tombe sur ses genoux et dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui prend place en fait? Et la question est beaucoup plus, vous en tant que peuple, pour qui est-ce que vous êtes? C'est comme si le chef de l'armée dit, la vraie question c'est plutôt, est-ce que vous allez faire confiance à Dieu? Parce que voilà, je suis arrivé. Je vais combattre pour vous, mais est-ce que vous allez me faire confiance? Et dans la prochaine étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on est justement dans ces chapitres 6 à 12. Si vous structurez le livre de Josué, c'est en fait les chapitres 6 à 12. Et dans ces chapitres, on découvre plusieurs batailles. Plusieurs batailles du peuple qui entre en terre promise. Et les deux premières batailles sont les deux grandes batailles de Jéricho et de Haï. C'est les deux qu'on a lues rapidement aujourd'hui. Alors, on n'a pas lu entier ni Jéricho ni Haï, mais c'est autour de là. Et puis ensuite, ça c'est les versets 6 à 8, puis les versets 9 à 12, ça couvre beaucoup d'années et beaucoup d'autres batailles. J'aimerais vraiment m'arrêter avec vous sur ces deux premières batailles parce qu'elles sont très différentes. Mais au-delà de leurs différences, ces batailles nous montrent une même réalité. La réalité, c'est la suivante pour tous ceux qui prennent des notes. Dieu demeure fidèle malgré nos défaillances et nos manquements. Ce qu'on voit dans ces batailles, c'est que Dieu lui est fidèle. Ce qu'il avait annoncé déjà auparavant et ce qu'il a répété au travers de son chef de l'armée, lui, il a pas changé. Mais la question, c'est toujours la question de notre cœur. Est-ce que nous, on va rester fidèles? Alors, on va commencer par Jéricho. Qui ici connaît l'histoire de Jéricho? Ok, on est en terrain à trois quarts connu. Beaucoup ont entendu ça. Qui? Non, c'est pas... Les flanellographes, vous vous rappelez? C'est l'école du dimanche, les petits dessins, Jéricho, la muraille. Cette fois, pop, la muraille qui tombe, les trompettes. Vous vous en souvenez, hein? On est dans cette entrée dans la terre promise, le peuple vit une transition majeure, il y a cette rencontre fondamentale et cette invitation, faites confiance et obéissez. Et quand vous lisez Josué, chapitre 6, verset 2, Dieu dit littéralement, écoutez bien, je vous livre cette ville. J'aimerais que vous puissiez pendant un instant vous mettre dans les baskets de Josué. Josué, il y a 40 ans, il avait déjà vu cet endroit. Puis il a dû attendre, il a dû errer avec le peuple. Jusqu'à ce que ça puisse être le bon moment. Et puis là, il revient. Puis si vous lisez juste avant Josué 4 et 5, vous allez voir qu'il retourne, puis il revoit de nouveau cette ville. Il est comme impatient d'entrer dans cette ville. Et là, Dieu lui dit, je vous livre cette ville. Et c'est un rappel de la rencontre qu'il vient d'avoir. C'est pour ça que je voulais lire la fin du chapitre 5. Il y a ce chef de l'armée, je suis arrivé, c'est bon. Et là, Dieu dit, je vous livre cette ville. Mais honnêtement, je ne sais pas pour vous. Je pense que ça demande quand même du courage. Même si tu as vu une rencontre vraiment surprenante avec le chef de l'armée de l'Éternel, même si Dieu littéralement te dit « c'est pour toi », je pense que ça doit être flippant pour Josué parce que la stratégie de Dieu, militairement, c'est nul. Hein. Moi, je ne sais pas. Est-ce que le chef, il peut revenir, le chef de l'armée, là, celui à qui... Tu as fait beaucoup de batailles parce que... Tourner autour des murs. Okay, c'est à quel moment on attaque? Est-ce que c'est par le flanc droit? Est-ce que c'est comment on fait? Non, tourner autour de cette ville, c'est bof. Et en fait, Dieu invite quelque chose de fondamental, je crois, qu'on doit comprendre. Dieu invite à lui faire une totale confiance. Tu es prêt pour la bataille, tu es prêt pour rentrer, non, mais est-ce que tu vas me faire confiance? Puis je crois que sa stratégie, c'est même pour aller chercher. À quel point c'est opposé à ce que j'aimerais faire moi. Littéralement, ce qu'il est en train de dire, alors je vais le traduire en 2023-24, tu vas la voir, cette ville, ne fais rien. Ok. Et je crois que des fois, on oublie que Dieu veut faire des choses pour nous, que Dieu a des projets pour nous, qu'il a des promesses, qu'elles sont à lui, justement, c'est ses promesses. Et nous, ce qu'il nous demande à nous, c'est la confiance. Et ce n'est pas tout à fait vrai, il ne dit pas rien. Il attend de nous aussi l'obéissance. Parce qu'il y a une stratégie, elle semble nulle. Militairement, on est d'accord. Mais il y a une stratégie. Si vous regardez, c'est intéressant, mais littéralement, ce qu'il demande au peuple, c'est « Faites le tour de cette muraille avec moi. » Parce qu'il dit, il y a 7 prêtres qui doivent porter l'arche. Et l'arche symbolisait, représentait littéralement la présence de Dieu. Puis il dit, alors que vous allez entrer dans cette terre, faites le tour avec moi, dans une posture d'adoration. Faites-moi confiance. Moi, je suis avec vous. Puis j'aimerais que pendant 6 jours, vous vous rappeliez que je suis avec vous. Parfois, Dieu nous dit, je vais combattre pour toi, mais nous, on a envie de prendre les armes. Alors que cette bataille nous montre, prends plutôt sa présence. Arme-toi de sa présence. Pas de tes armes, pas de tes stratégies, mais sa présence. Mets la présence de Dieu en avant. Prie, appuie-toi sur lui, adore-le. Alors que tu t'en vas vers ta terre promise. Et comme souvent avec Dieu, c'est une posture défiante. Parce que ce n'est pas tout à fait passif. Il ne dit pas au peuple, tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Que ceux qui ont la référence comprennent. Il ne dit pas au peuple ça. Il ne dit pas, mettez-vous sur le côté, je m'en vais, je vous appelle quand c'est fini. Non, non, il dit, j'ai besoin de vous les gars. J'ai besoin de vous. Vous allez prendre l'arche, vous allez marcher autour de la ville, vous allez, faites-moi confiance, allez-y. Et le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour, vous allez faire résonner les trompettes et je vais vous surprendre. Je vais vous livrer cette ville. Il dit, priez, attendez-vous à moi, gardez-moi devant vous dans tout ce que vous faites. Placez votre confiance en moi. Alors que je préparais ce message, j'avais l'impression que pour moi déjà, mais pour plusieurs ici, il y a des choses que Dieu veut faire pour toi. Puis tu le sais. Puis il y a peut-être une part de frustration, il y a peut-être une part de question, mais comment, mais jusqu'à quand, mais quoi? Puis j'ai envie de te le dire, est-ce qu'on laisse Dieu devant nous? Est-ce qu'on place notre confiance en lui? Est-ce qu'on dit, Seigneur, rappelle-toi ce que tu as dit. Moi, je te fais confiance, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. C'est toi qui combats pour nous. Si on revient à l'histoire, certains théologiens soulignent les 6 jours qui nous rappellent que nous sommes invités à travailler pendant 6 jours et lorsqu'on se repose, le 7e jour, c'est Dieu lui-même qui continue à œuvrer pour nous. Mais il y en a d'autres aussi qui mettent ça en avant, puis j'aime beaucoup ça, c'est jamais exprimé directement. Mais et si Dieu laissait du temps à Jéricho pour que Jéricho se retourne? Si vous l'avez lu, Josué, les chapitres qui précèdent, au chapitre 2, il y a une histoire d'une femme qui s'appelle Rahab. Et elle et sa famille vont complètement avoir leur cœur retourné. Alors qu'ils étaient à Jéricho, ils vont être complètement épargnés de tout ce qui va se passer. Et Rahab va prendre un rôle significatif, étant donné qu'elle sera annoncée dans la lignée de ceux qui ont permis à ce que Jésus arrive sur terre. Est-ce que Dieu laisse du temps à Jéricho? J'ai beaucoup aimé cette question-là des théologiens. Qui disaient peut-être que Dieu en fait a envie que Jéricho dise, ok, on vous laisse la place. Alors tout comme on l'a compris lors de la rencontre en Josué 5, le combat et la victoire appartiennent à Dieu. C'est la conquête de la terre, mais c'est en s'appuyant sur Dieu qu'on emportera les victoires. C'est Dieu qui combat pour nous. Ça semble presque naïf, voire simple, de dire ça à l'Église. Mais je crois que la réalité, c'est qu'honnêtement, c'est très 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 difficile de faire pleinement confiance à Dieu. Si vous avez trop lu cette histoire, fait les chansons à l'école du dimanche, fait les représentations sur scène en tant qu'enfant avec les trompettes et je ne sais quoi, les cartons de chaussures qui tombent pour faire la muraille qui tombe. On peut être rapide et prompt à dire, ah mais bon, c'est le fameux yaka à faire confiance, c'est pas dur. Mais et nous alors? Moi je pensais à moi, combien de fois j'aime prendre les choses entre mes mains? Combien de fois Dieu me dit, hey, voilà j'ai ça pour toi, je dis, merci Seigneur, maintenant je vais m'en occuper moi. Merci pour l'info, j'ai reçu le mémo, maintenant je vais faire ce qu'il faut faire moi. Et combien de fois je reprends la place que lui voudrait avoir, celle d'être au contrôle. Je crois qu'il y a une invitation, comme tout à nouveau, à nous appuyer pleinement sur Dieu, à lui donner nos cœurs en entier, à nouveau. Seigneur, c'est ton combat. Puis, c'est fascinant parce que juste après, on va partir dans la bataille avec Haï. Mais je me dis que le peuple, après tout ce qu'ils ont vécu, à l'arrivée dans cette terre promise, c'est sûr, ils vont dire, ok, Seigneur, on te fait confiance, tu sais mieux que nous. On a compris le message, on a tourné en rond. D'ailleurs, au passage, sans doute qu'aucun d'eux n'était aguerri au combat militaire. C'était une génération née et qui a grandi dans le désert. Donc peut-être qu'ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait d'autres stratégies possibles. Et du coup, ils ont juste dit, bah, on y va, on fait confiance. Si c'est ce qu'ils nous demandent, ok. Et parfois, nous aussi, hein, quand on commence, en particulier quand on commence une marche avec Dieu, tu sais, on est dans un schéma de confiance extrême. Si tu connais des gens qui se sont fait baptiser il n'y a pas longtemps, si ce n'est pas le cas, j'espère que tu vas en rencontrer bientôt. On a bientôt une série de baptêmes là, ici. Donc, rencontre les gens qui vont se faire baptiser. Mais au début, c'est ce que certains appellent la phase de la lune de miel. Je fais confiance à Dieu. C'est Dieu, il m'a dit ça, alors je fais des choix fous. Puis j'y vais, je lui fais confiance, je prie. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est comment est-ce qu'on continue à garder cette posture ? Est-ce qu'on reste dans cette confiance et cette obéissance ? Et là, je m'adresse peut-être à ceux qui sont des vieux chrétiens. Tu sais, ça fait 2 ans que tu es chrétien. Ou 3. Au niveau biblique, ça fait de toi un vieux chrétien, si jamais tu avais des doutes. Est-ce qu'on reste encore dans cet état ? Est-ce qu'on reste encore dans cette confiance ? Je parlais cette semaine avec un pasteur qui est responsable d'un projet immense. Je pense que c'est un des plus grands projets dans la région. Il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux spirituels, les médias, tout ça, machin. Puis on discutait ensemble des prochaines étapes qui n'étaient pas évidentes pour lui. Et lui avait un petit sourire. Et il me disait, tu sais, ce qui est difficile, c'est de continuer à lui faire confiance comme au premier jour. Et vraiment, ça m'a... Bon, j'étais en préparation dans ce message, mais ça m'a vraiment arrêté. Je me disais, mais c'est vrai, en fait. Il m'a dit, on arrivait à un stade où on pourrait faire les choses d'après nos stratégies, d'après nos expériences, d'après la dernière fois, puis ce dossier-là, on l'avait réglé comme ça, puis tout ça. Puis il me disait, mais le défi, c'est de continuer à lui faire confiance comme au premier jour. Presque bêtement, presque naïvement. C'est ça qui est difficile pour nous, Yves, c'est que toute l'équipe, on reste dans cette naïveté de suivre encore Dieu. Simplement. S'il nous dit, c'est lui qui nous dit, puis ça va aller. Et c'est ce qu'on voit pour le peuple également. On arrive à cette deuxième bataille d'Aï qui va se jouer en 2 actes, en fait. La bataille d'Aï, elle se joue en 2 actes. Chapitre 7 qu'on a lu, Aï bat le peuple d'Israël. Et alors, ça peut sembler une petite victoire quand on entend une trentaine de personnes qui ont été sur 3000. En plus, tu as compris que 3000, ce n'était pas tout le monde qui était allé. Tu me dis, bon, ça va. Mais Josué souligne quand même l'impact de cette défaite quand il dit « le peuple se liquéfia ». C'est quand même une expression pour dire d'un coup, il n'y avait plus du tout la paix, il n'y avait plus du tout la confiance, il y avait une panique profonde qui a saisi le cœur du peuple. Et si tu continues le chapitre 7, les 10 derniers versets environ du chapitre t'expliquent pourquoi. Et là, vraiment, encore une fois, tu te dis, mais Dieu, il est bizarre quand même. On nous dit qu'un gars du nom de Achan n'a pas obéi. Dieu avait donné des indications précises sur comment faire avec Jéricho. Mais une personne a décidé de prendre des biens qu'il ne devait pas prendre et a décidé de mentir à ce propos. Et donc, littéralement, il faut comprendre ça, ce qui se passe, c'est que Dieu arrête de combattre pour eux. C'est aussi simple que ça. Si tu te demandes, c'est quoi la différence entre Jéricho et puis le premier acte de la bataille d'Aï, c'est Dieu. Jéricho, Dieu était là. Aï, Dieu était parti. Il a dit non, vous ne voulez pas m'obéir, vous ne voulez pas me faire confiance, j'arrête. Vous faites par vous-même. Et les conséquences, c'est cette peur profonde. Puis si vous continuez ensuite, alors, la suite de la fin du chapitre 7 est intense et violente. Parce que le peuple doit gérer ce qui s'est passé, ce mensonge et cette désobéissance. Puis ensuite, au chapitre 8, vous avez le deuxième acte de cette bataille et le peuple d'Israël va l'emporter. Mais cette deuxième bataille, justement, montre un contraste extrêmement fort et met la lumière sur ce qui se passe quand on ne se confie pas pleinement en Dieu. Vous vous rappelez des cœurs entiers. Et si vous lisez dans les détails, vous pouvez dire, mais ce n'est pas un big deal, le gars a pris un peu d'argent et un manteau. La première fois, j'ai lu, vraiment, parce que j'en suis arrivé à ce genre de moment, j'ai lu ça, je me suis arrêté, j'ai dit, vraiment ? Et c'est comme ça a commencé une conversation entre Dieu et moi. J'ai dit, Seigneur, tu t'es énervé pour un manteau ? Sérieusement ? C'est pas grave, hein. C'est bête, mais c'est pas grave là. Puis si sur l'ensemble du peuple, il y a un gars qui prend un manteau. Je sais pas si je me suis senti comme Abraham qui dit, s'il y a 10 personnes, est-ce que tu épargneras cette ville ? Je me suis dit, un manteau, pourquoi est-ce que tu fais comme ça ? Mais je crois qu'il faut comprendre tout ce qui se passe derrière cette désobéissance. Ce n'est pas tellement ce qu'il a pris ou ce qu'il a fait qui compte. C'est plutôt quel est le cœur pour Dieu. À quel point est-ce qu'on place notre confiance en Dieu? Et j'aime trop parce que la Bible nous dit quand il a vu ces choses-là, de l'argent et un manteau qui lui plaît, je ne sais pas quelle marque de ce manteau, hein, mais la Bible nous dit simplement, il en a eu envie. Et là, les amis, moi, ça m'a percé le cœur fort. Je me suis dit combien de fois j'ai fait des choses juste parce que j'en ai eu envie. Sans regarder ce que Dieu disait de ça. Sans considérer ce que Dieu m'avait demandé sur ces choses-là. J'avais juste envie. Combien de nos péchés on tolère juste parce qu'on en avait envie? C'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais je crois que derrière cette désobéissance, il y a autre chose, un manque de confiance en Dieu. Dieu a dit quelque chose, et moi je vais faire autre chose parce que j'en ai envie. Et quand j'ai écrit ça, j'ai dit, Seigneur, ça me fait mal parce que c'est moi, ce gars-là. C'est moi très souvent, ce gars-là. Tu m'as dit quelque chose, puis juste parce que j'en ai envie. Vous savez, des fois, il y a les gens que j'appelle les surspirituels. Ils pensent que le diable est contre eux. Que l'enfer s'ouvre et puis les poursuit dans ce qu'ils sont en train de faire. Et des fois, c'est juste Dieu qui a arrêté d'être avec toi parce que tu as arrêté de lui obéir. Il n'y a personne ici qui nous dit « Achan a été saisi par l'esprit du malin qui... » Non, il a juste eu envie. Qui ici n'a jamais eu une envie? Et j'ai envie de vous dire, la plupart du temps, ce n'est pas si grave que ça, nos envies. Je ne suis pas en train de te dire, tremble demain quand tu voudras un café à 10h30. Seigneur, est-ce que j'ai le droit d'avoir envie de ce café? Je n'ai pas le droit d'avoir... Je suis perdu, il a dit hier de ne pas avoir... Non. Relax, ce n'est pas du tout ce que je dis là. La plupart du temps, c'est tout à fait OK. Mais est-ce que mes envies sont plus importantes que ce que Dieu me demande? Ça, c'est une question. Est-ce que mes envies sont plus importantes que ce que Dieu me demande? Je crois qu'il y a justement quelque chose d'important qui se joue dans ces détails. Parce que finalement, ça reflète et ça révèle ce qu'on croit profondément de Dieu. Dieu combat pour nous, on l'a chanté ce matin. Dieu prend soin de nous, vous l'avez entendu, c'est sûr si vous êtes allé dans une église plus qu'une fois. Dieu ne nous abandonne pas, Dieu nous connaît et sait ce qu'il y a de mieux pour nous. La plupart des gens ici, vous pourriez dire oui et amen à ces phrases. Vous les avez entendues déjà. À quel point vous les croyez? Ça, c'est une autre question. Est-ce que vraiment, il va prendre soin de moi? Parce que moi, j'ai dû relire plusieurs fois. Je me suis dit, peut-être qu'il était dans une situation financière difficile, le pauvre. Et il y a un peu de cash. Ils ont perdu. On a ramené déjà beaucoup pour les offrandes à Dieu. Je prends un peu de cash. Mais il ne nous a même pas dit qu'il était dans le besoin. Est-ce qu'on croit réellement que Dieu ne nous abandonne pas? Vraiment? Pas là quand on est ensemble et on chante « Alléluia, Dieu combat pour nous ». Quand ça ne se passe pas comme tu aurais voulu, pas comme tu avais prié, est-ce que tu crois vraiment que Dieu ne t'abandonne pas? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est pour toi? Quand il n'y a pas ce que tu voulais? Le job que t'attendais, l'appart que t'attendais, la relation que t'attendais. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est toujours bon? Est-ce que nos cœurs sont entiers pour lui? Est-ce que nos cœurs restent entiers pour lui? Ou alors est-ce qu'on décide de prendre les choses entre nos mains? Par envie? Par l'impression de besoin? Ignace de Loyola, qui est fondateur des Jésuites, a dit la chose suivante. Le péché, c'est refuser de croire que ce que Dieu veut pour moi est seulement mon bonheur le plus profond. Est-ce que tu crois vraiment ça? Ce que Dieu veut pour moi, c'est seulement mon bonheur le plus profond. Et quand ça ne se passe pas tout à fait, quand je ne comprends pas, est-ce que je continue à croire ça? Parce que quand j'y crois plus, je prends les choses entre mes mains. Quand j'y crois plus, mon cœur n'est plus entier pour Dieu. On peut sincèrement se poser la question, pourquoi Dieu s'est énervé? C'est juste un manteau et un peu d'argent. Mais on peut aussi se poser une autre question, pourquoi ce gars a voulu prendre ce que Dieu avait dit de laisser? C'est quoi l'idée? Donc on voit un enchaînement ici de situations. Il y a l'entrée en terre promise, deux batailles, et ces deux batailles sont éclairantes et nous posent une question. Est-ce que je place réellement toute ma confiance en Dieu? Si le combat est mené par Dieu en partenariat avec nous, en fonction de nos cœurs, est-ce que moi, je me positionne effectivement pour Dieu? Tu te rappelles cette histoire, hein? Je ne suis plus ton ami. Et je me dis, mais combien de fois nous, en tant que chrétiens, on dit à Dieu, je ne suis plus ton ami? Et vraiment, c'est ça que je voyais avec mes petits. Un s'appelle Jelani, l'autre s'appelle Isaac. Et ils en sont à parler. Alors, si vous ne parlez pas leur langue, ce n'est pas ma faute, mais ils parlent. Et Jelani appelle son frère Kak. Et c'est littéralement une phrase que j'entends mais tous les jours. Mais Kak ! Mais Kak ! Je ne suis plus ton ami. J'entends ça tous les jours. Et vraiment, je pensais à ce message, je me dis, mais combien de fois j'ai crié un truc à Dieu, j'ai demandé un truc à Dieu, puis Dieu ne m'a pas répondu. J'avais l'impression qu'il m'ignorait. Et du coup, dans mon cœur, je ne l'ai pas dit, mais dans mon cœur, c'est là-bas, je ne suis plus ton ami, Seigneur. Alors je vais faire sans toi maintenant. Combien de fois ça m'est arrivé à moi ? Le cœur de mon message, et c'est le titre de mon message, sommes-nous positionnés pour Dieu ? Mais j'aimerais me permettre une parenthèse d'une dizaine de minutes pour vous, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, je crois, qu'on doit absolument faire, sinon on est malhonnête, c'est parler de la violence de Dieu. La question de la violence de Dieu et de son peuple, en particulier dans l'Ancien Testament, c'est une question extrêmement importante. C'est un thème classique aussi d'apologétique. On demande souvent cette chose, mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? Et je pense que si vous êtes honnête, si vous enlevez l'héritage judéo-chrétien, c'est bizarre cette histoire. Dieu demande de faire du mal à toute une ville ? Pas qu'une fois. Les chapitres là qu'on a, c'est littéralement encore et encore et encore et encore. C'est quoi ce délire ? Comment on peut faire confiance à un Dieu comme ça ? Est-ce qu'il est vraiment bon ? Alors, en 10 minutes, je ne vais pas prétendre tout résoudre. Mais ce serait malhonnête pour moi de ne pas en parler en tant que pasteur. Je veux dire, on continue à lire, hein, comme si de rien n'était. Oui, il a demandé d'anéantir un village, puis un deuxième, mais Dieu est amour. Ah bon ? C'est quoi cet amour alors ? Qu'est-ce qu'on fait des commandements comme « aimez vos ennemis » ? Ce n'est pas Jésus qui a dit ça ? Qu'est-ce qu'on fait des 10 commandements qui étaient juste avant au Mont Sinaï où il a dit « Tu ne tueras point ». Est-ce que Dieu est vraiment le même hier, aujourd'hui et demain ? Est-ce qu'il est schizophrène ? Est-ce qu'il a des absences ? Est-ce qu'il se contredit ? C'est aussi une chose qu'on dit souvent. On ne peut pas lui faire confiance parce que sans doute il doit se contredire. En plus de ça, si vous étudiez en détail, en particulier ces chapitres ici, c'est différentes villes, mais c'est un peuple qui est ciblé, le peuple cananéen. Et du coup, il y en a même qui ont étudié ça en détail, qui disent, mais en fait, Dieu, il a encouragé un génocide, en fait. Il voulait que tout un peuple disparaisse. C'est violent, cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Alors, encore une fois, je veux adresser ça, dizaines de minutes, je ne veux pas du tout prétendre solutionner, c'est un vaste sujet d'apologétique, il y a des livres et des livres qui sont écrits là-dessus, mais je veux donner peut-être quelques pistes éclairantes pour relire ces histoires et recomprendre un peu du cadre de ces histoires, mais aussi comprendre comment cette violence de Dieu peut faire du sens. Alors, la première des choses que je veux noter, c'est que Dieu a des attentes morales, éthiques et comportementales. Il a des choses qu'il aime et des choses qu'il a en horreur. Ça, on le voit quand on lit la Bible. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est des choses qu'on voit. Et il faut noter que les pratiques, en particulier des Cananéens, concernant la morale et l'éthique, déplaisent profondément à Dieu. Si vous lisez les livres qui précèdent, les chapitres que je vous ai dit que vous n'avez pas besoin parce que je vous ai fait le résumé, si vous lisez, il y a tout un livre qui s'appelle les Lévitiques, et notamment le chapitre Lévitique 18, pour ceux qui prennent des notes, il y a toute une série de commandements, notamment moral et éthique. Voilà comment vous devez vous comporter. Mais le début du chapitre, il dit, ne faites pas comme les Cananéens. Ne faites pas comme les Cananéens. Il y a des comportements, j'ai en horreur ces comportements qui sont chez eux. Et il y a tout un chapitre sur ces pratiques-là. Et il nous est dit que le peuple ne devait pas se conformer ni à l'Égypte, ni à Canaan, où ils vont se rendre. C'est vraiment, Dieu dit, hey, vous allez vous rendre dans des endroits, je n'ai pas envie que vous viviez comme eux. Les comportements qu'ils ont sont à l'opposé. Et ça, si vous lisez dans l'histoire et la Bible, ça naît depuis le moment où l'homme a voulu faire sans Dieu, puis dire lui ce qui était bon et pas bon. Et Dieu a dit, non, moi je vous dis ce qui est bon et pas bon. Et si vous voulez me suivre, vous aurez la vie en abondance. Sinon, ça amènera à la mort. Donc il y a toute une réalité, c'est important. Et pour Dieu, c'est aussi important que ces gens-là n'entrent pas en séduction. C'est pour ça que toute l'histoire d'Acan est intéressante. N'entrez pas en faisant des compromis, en vous disant, ben, on va prendre un petit peu de ce qu'ils font, pas tout, mais un petit peu quand même, ou quoi, parce que vous risquez d'être emporté dans leur comportement. C'est pour ça qu'il y a cette violence qui semble complètement folle. On dit, mais c'est quoi ce délire? Et Dieu ne veut pas que son peuple devienne idolâtre, il ne veut pas qu'il y ait des pratiques qu'il a en horreur. Et si vous lisez, il y a vraiment des choses qui sont graves, hein, et ça va jusqu'aux pratiques religieuses. En Deutéronome, on nous dit par exemple que ce peuple faisait des sacrifices d'enfants. Et Dieu dit, moi, je ne veux pas de ça, en fait. Je ne veux pas que vous sacrifiez, je ne veux pas que vous fassiez du mal. Ce peuple aussi se scarifiait, se faisait du mal pour adorer leur divinité. Et puis, moi, je ne veux pas de ça. Ça, j'ai en horreur, toutes ces choses-là. Mettez-les de côté. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Donc, c'est radical. Mais il faut comprendre que non seulement ce peuple avait aussi des comportements radicaux et que Dieu avait donné un cadre qu'il avait envie de garder. Et quand son peuple allait entrer en terre promise, il a dit, moi, je refuse que vous mélangiez avec ces pratiques-là. Je ne veux pas que vous ayez rien à voir à faire avec ça. Ça, c'est un premier élément intéressant. L'autre chose qu'il faut aussi souligner, c'est que ce n'est pas tout un peuple qui a vécu. Puis ça, c'est plus nuancé. Il faut vraiment que, pour ceux qui sont intéressés, vous alliez lire des livres là-dessus. Mais ce n'est pas un génocide que Dieu propose sur les Cananéens. Il y a plusieurs choses qui le démontrent. Je vais vous donner deux éléments principalement. Tout d'abord, comme à d'autres endroits dans la Bible, il y a un style littéraire. Je l'ai vécu ce matin encore avec ma fille. Ce qu'on appelle le style hyperbolique. Vous connaissez sans doute ça. Parce qu'on nous dit... Ils ont rasé toute la ville. Mais si vous lisez, juste après, il est dit, et Dieu leur dit, ne vous mariez pas avec eux. Mais si la ville est rasée, comment est-ce que tu peux nous dire de ne pas nous marier avec, en fait? Et ça, c'est un style qui est régulier, récurrent, qui arrive plusieurs fois, il y a plein de fois, où on voit cette notion-là, destruction totale, des rasés, aucun survivant, mais en fait, le texte nous montre que c'est une hyperbole. Et je vous disais, je l'ai vécu encore ce matin, mes deux filles, j'étais avec mes deux filles, mes grandes, on est à la gare de Renan. Et ma grande dit, waouh, il n'y a personne à la gare aujourd'hui. Tout le monde comprend ça, parce que vous êtes déjà allé des dégâts. Et ma deuxième fille lui dit, ben non, regarde, il y a quelqu'un là-bas. Et tout le monde ici est d'accord de dire, personne ne mentait dans l'histoire. La première utilisait un style hyperbolique pour dire, en fait, ça contraste vraiment avec ce que je vois d'habitude. Ça semble vraiment vide ici, mais elle n'était pas en train de dire, j'ai vu aucun être vivant sur les quais de la gare. Mais ce style-là, il est aussi. Il y a des styles littéraires dans la Bible, il faut comprendre. Et ce style-là est aussi présent. Il y a plusieurs endroits où il y a des hyperboles. Et ils ont été, puis ils ont anéanti le peuple. Mais quand vous lisez, en fait, vous voyez que, ben non. Ils retournent juste après, il y a encore du monde. On leur dit, faites pas des alliances, ne vous mariez pas, et tout ça. Donc, ils n'ont pas anéanti tout le monde. Ils ont eu la victoire sur le peuple. Et c'est un style hyperbolique. Ça, c'est important de comprendre ça. Mais l'autre élément aussi, c'est des choses que vous trouvez en Josué 10, en Josué 15. Il y a plein de moments comme ça. Mais l'autre chose qu'on doit comprendre aussi, c'est que Dieu ne vise pas un peuple, il vise les cœurs. Si Dieu visait vraiment un peuple, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il a laissé Rahab alors et toute sa famille partir? Si vous lisez ensuite Josué 9, pourquoi est-ce que tous les Gabaonites, c'est tout un peuple en entier qui vont faire alliance avec le peuple, sont épargnés? Ça ne semble pas correspondre avec l'envie d'éradiquer tout un peuple. Dieu en a après nos cœurs, pas après nos origines. Et du coup, ce peuple incarnait, montrait des choses qui étaient contre. Et puis Dieu a vraiment demandé ces choses-là. Mais Dieu en a après le cœur. Et c'est pour ça que je vous disais, et si ces six tours, c'était pour laisser l'occasion à Jéricho de se tourner. Tout semble indiquer que si Jéricho avait fait comme Rahab, il n'y aurait pas eu besoin de détruire ce peuple. Il n'y aurait pas eu besoin de détruire cette ville. Donc ça, c'est important de le noter. Dieu est sérieux quant à ses projets. Il veut et attend de nous un certain comportement. Dieu est amour, mais il est aussi justice. Et ceux qui s'opposent à lui, ceux qui refusent son cadre, risquent des conséquences. Et c'est des récits qui mettent ça en avant, c'est sûr. Mais son désir n'est pas du tout d'anéantir des peuples. Jamais. Et ça, c'est important de le noter. Même au milieu de ces histoires qui sont difficiles à lire, on voit Dieu qui est tout à fait prêt à accueillir ceux qui ont envie de lui donner leur cœur. Ce n'est pas du tout Israël contre les Cananéens. Ce n'est pas ça l'enjeu. Et c'est pour ça que je voulais aussi rappeler le chef de l'Éternel au départ. Tu es avec eux ou tu es avec nous? Non. Ni l'un ni l'autre. Vous êtes avec qui? C'est ça la question. Parce qu'il va y avoir des conséquences en fonction de pour qui vous êtes. Moi, je suis, en d'autres termes, le chef de l'armée de l'Éternel est en train de dire, moi, je suis pour tous ceux qui seront avec Dieu. C'est ça qu'il faut savoir. Et si on pense à la violence de Dieu contre les autres peuples, si on est un minimum honnête, vous savez le peuple qui a le plus souffert de la violence de Dieu ? Israël. C'est Israël qui a le plus souffert. C'est pour ça que je vous ai rappelé le récit. Hein. Toute une génération, vous allez mourir dans le désert, tant pis. À un moment donné, c'est fini. Je vous ai donné des occasions, vous ne voulez pas, vous voulez rester idolâtre, vous ne voulez pas me faire confiance. Voilà, il y a des conséquences à ça. Et si vous lisez le livre des juges, vous allez voir à quel point Israël, qui devient de plus en plus comme les Cananéens, et la violence de Dieu aussi contre Israël. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça. Il n'y a rien du tout ici d'ethnique ou de racial. C'est toute une question de cœur. Et la dernière chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que ces exemples et ces situations, pardon, sont des situations exceptionnelles. Elles sont limitées dans le temps et dans l'espace. Les histoires qu'on trouve, c'est peu d'histoires finalement sur un peuple. On a 9 chapitres dans l'ensemble de l'Ancien Testament où on voit cette violence qui est exprimée. Il y a Nombre 21, Nombre 31, Josué 6 à 12 et 1 Samuel 15 en particulier qui nous montrent cette violence-là. C'est des situations exceptionnelles. Alors j'ai essayé de montrer qu'il y avait des pistes explicatives. Je ne prétends pas que ce soit facile, mais j'aime aussi rappeler, notamment pour nous aujourd'hui qui sommes dans un autre temps parce que Jésus est venu puis on est dans le temps de la grâce, il faut se rappeler que cette violence, elle arrive aussi. Parce qu'il y aura le temps de la justice. Parce que Dieu, oui, est amour, oui, il est grâce, mais il est aussi justice. Et ce temps est aussi annoncé dans le Nouveau Testament, mais dans le livre de l'Apocalypse, qui est un livre prophétique. Et du coup, nous, il faut qu'on réalise que Dieu est sérieux quand il veut nos cœurs. Et qu'il y a un véritable enjeu par rapport à ça. Je voudrais terminer sur ce sujet-là, simplement en vous disant que malgré cette violence, on peut vraiment découvrir une patience divine et un amour extrêmement large de la part de Dieu pour le peuple, en ensemble, pour l'humanité, dans son ensemble. Il y a des livres entiers qui le démontrent. Pensez au livre de Jonas, par exemple. Vous savez, Cananéens, c'est déjà depuis Genèse 15 qu'on nous en parle dans la Bible. En Genèse 15, déjà, on nous dit que les Cananéens étaient moralement mauvais, injustes, avec un comportement qui déplaît à Dieu. On est des centaines, si pas des milliers d'années plus tard, quand la violence de Dieu se manifeste. Dieu est extrêmement patient. Et c'est la même chose qu'il a fait avec le Pharaon. Il a endurci le cœur du Pharaon, mais si vous regardez le Pharaon et les Pharaons, s'étaient endurcis eux-mêmes bien avant ça. Eux-mêmes avaient proposé de tuer tous les enfants hébreux. Eux-mêmes avaient décidé de tenir un peuple avec qui ils avaient fait une alliance en esclavage. Eux-mêmes s'étaient rebellés, s'étaient tenus fermes dans leur rébellion face à Dieu. Et après ça, Dieu a dit, maintenant, j'endurcis leur cœur. Maintenant, il va y avoir des conséquences. Puis alors, nous, on n'aime pas ça. Mais je crois qu'on ne peut pas prendre Dieu avec son amour si on n'est pas prêt à prendre Dieu avec sa justice. Et ces histoires-là nous le rappellent aussi. Il est amour et justice. Il est radical et il attend de nous des cœurs entiers. Et je crois que cette violence nous le rappelle. Et comme on l'a vu avec cette histoire d'Haï, Dieu ne fait pas d'exception. Même son peuple s'est liquéfié parce qu'il avait désobéi. Donc c'est pour tout le monde. J'aimerais terminer en disant sur ce sujet-là, Jésus a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Si vous demandez c'est quoi notre exemple à nous, c'est Jésus. Ce Jésus qui a dit aime ton ennemi. Et ça montre beaucoup plus le caractère de Dieu en fait. Ces exemples-là nous mettent mal à l'aise, sont dérangeants, mais le caractère de Dieu c'est un Dieu qui aime, qui est patient, qui donne encore et encore et encore des chances. C'est un Dieu qui accueille. Mais la mort de Jésus sur la croix, et comme je l'ai dit avant, les annonces de son retour nous rappellent aussi que Dieu ne reste pas indifférent à l'injustice et qu'il est aussi un Dieu de justice. Et ces 4 violences nous mettent mal à l'aise, sont désagréables, mais le prophète Ésaïe lui-même l'appelle l'œuvre étrange de Dieu, en Ésaïe 28. Et je crois que c'est une bonne nouvelle si ça nous met mal à l'aise. Parce que je pense que Dieu lui-même était mal à l'aise face à ça. Ce n'était pas ce qu'il avait envie, en fait. Le grand arc biblique nous le révèle, ce n'est pas ce qu'il avait envie. Ce n'est pas un Dieu qui est arrivé en disant « Je me réjouis de quel est le prochain peuple que je peux tuer. » C'est un Dieu qui disait plutôt « Mais si seulement il pouvait se tourner, si seulement il pouvait arrêter, je déteste leur comportement, changer de voie, changer de comportement encore et encore, parce qu'il sait qu'à un moment donné, il va y avoir des conséquences. » Et ça, c'est vrai pour tous. Alors je vais finir, j'invite la musique à revenir, l'équipe de louanges. Je ne pouvais pas ne pas parler de ça, alors qu'on vous invite à lire la Bible et qu'on est dans ces chapitres désagréables. Et je reconnais, je l'ai dit, je ne prétends pas que ça répond à tout. Je crois qu'il y a vraiment des clés de lecture qui nous permettent de comprendre et de donner du sens à cette violence. Mais le cœur de mon message, c'était d'être positionné pour Dieu. Et c'était de parler d'avoir des cœurs entiers pour Dieu. Et pour nous, la question se pose également, est-ce qu'on a vraiment confiance? Est-ce qu'on est vraiment prêt à obéir à Dieu?
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.